Je suis très heureux que ce soit un sujet aussi important pour chacun de nous que celui du suicide. Il suffit d'évoquer quelques manchettes de journaux pour saisir toute l'actualité de ce sujet toujours actuel. Un mouniste qui s'immole par le feu à la manière de Jan Palach. Un ancien ambassadeur au Vatican qui prend son revolver et qui met fin à ses jours et en même temps massacre sa famille. Plus loin dans le temps, mais enfin la mémoire peut en être encore assez fraîche dans notre esprit, un écrivain comme Monterland qui se suicide, un cancérologue comme le professeur Lacassagne qui, sentant venir la vieillesse, se jette par la fenêtre. Ou alors d'autres choses. Moi, j'ai un souvenir personnel précis. Quand j'étais étudiant et membre du groupe public universitaire de Paris, à l'époque, les groupes publics universitaires n'étaient pas très nombreux en France, mais il en existait déjà. Je me rappelle un soir, à la sortie d'une réunion, nous avons trouvé, des rues des Orchidées, à Paris, dans le 13e, une jeune fille étendue sur le trottoir. Elle s'était tailladée les veines et elle serrait encore sur sa poitrine un numéro de Nous deux. Elle a pu être sauvée, la chose ne s'était pas produite depuis très très longtemps. Ce genre de choses arrive tous les jours. Et ce qu'on peut se demander, c'est ce qu'ont de commun tous ces faits divers, comme on les appelle. N'y a-t-il pas un foisonnement de formes et donc aussi de motivation, de signification à ces actes que l'on regroupe tous sous la rubrique « le suicide » ? On peut se demander si le singulier est même justifié. Et de toute façon, quel est le sens? Camus, vous le savez, a ouvert son l'essai qui le rendit fameux, le mythe de Sisyphe, par cette formulation très forte. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Et William James, le philosophe américain de la fin du 19e siècle, disait « Je suis d'avis que quelqu'un qui n'a jamais réfléchi sérieusement au suicide n'a pas terminé son éducation. » Alors je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà commencé à réfléchir. Je ne vous considérerai donc pas comme en train de terminer votre éducation, mais il est certain que les plus sensibles des penseurs ont réfléchi à ce thème du suicide. Ils se sont rendus compte qu'il met en jeu finalement le sens même de l'existence. Et c'est le propre de l'homme qui est comme révélé par l'interrogation sur les raisons de vivre et sur la possibilité de mettre fin à ses jours. L'homme se caractérise par cette possibilité étrange d'être lui-même l'objet de ses actes. Il ne se contente pas de connaître, mais il se connaît. Il ne se contente pas de faire, mais en faisant, il se fait, selon la formule fameuse. Et dans le suicide, il semble qu'on soit au point extrême de cette capacité réflexive au sens le plus fort. Non seulement il est capable de tuer, mais il est capable de se tuer. C'est vraiment le propre de l'humanité qui est en jeu lorsque l'on réfléchit au suicide. Alors, quelle approche adopter? Comme l'introduction de Georges tout à l'heure vous l'a déjà suggéré, c'est à la lumière de la Bible essentiellement que nous voulons essayer de discerner quel est le sens du suicide. Mais je considère quand même qu'il est plus honnête, laborieusement honnête pour moi, de résumer avant de vous dire, de vous faire part de ce que je crois l'éclairage biblique, de vous résumer ce que les chercheurs et penseurs ont dit à ce sujet. Bien sûr, ce ne sera qu'un faible résumé. Dans sa préface au livre de Jean Béchler, que malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire, sur les suicides, Raymond Aron dit que chaque année des centaines de titres s'ajoutent à la bibliographie du sujet. Alors, je le confesse, je n'ai pas pu lire des centaines de titres, j'en ai lu un certain nombre, mais je ne prétends pas donc vous donner l'état académique de la question, vous donner un survol complet de tout ce qui s'est dit sur le sujet. Mais je pense quand même pouvoir vous faire part de choses fort intéressantes. Elles m'ont intéressé, personnellement éclairé, dans les choses que j'ai lues. La première approche, que l'on a tenté de façon très systématique, et c'est l'approche sociologique. Vous savez que le fondateur de la sociologie, Durkheim, a choisi le suicide comme le sujet par lequel éprouver sa méthode. Et il a produit le premier grand livre de science humaine, entre guillemets, sur le suicide. À la fin du 19e siècle, il a été réédité assez récemment. Ce que, par l'usage des statistiques essentiellement, et la mise en lumière de corrélations, Durkheim pensait pouvoir prouver, c'est que le risque de suicide est inversement proportionnel au degré d'intégration sociale. Plus le sujet est solidaire, moins il a de liens avec son milieu, plus probablement il sera tenté par le suicide. Et c'est ainsi qu'il interprétait le fait que les germaniques se suicident plus que les latins, que les hommes se suicident plus que les femmes, que les protestants se suicident plus que les catholiques, etc. Tout ce qui met l'accent sur l'individualité implique, comme son ombre en quelque sorte, un risque suicidaire plus élevé. Alors cette thèse de Durkheim a été très sévèrement critiquée. Moi j'ai lu un auteur qui lui-même, je vais en reparler, est un psychologue, un grand patron de la médecine française, qui en a fait une critique extrêmement dure, le docteur Gabriel Dehay ou Dehay, je ne sais pas comment vous voulez prononcer son nom, enfin, ça s'écrit en un seul mot, Dehay. Plus récemment que le livre de Dehay, il y a eu, paraît-il, un livre en anglais très systématique, très fouillé, très complet, d'un certain Douglas, qui a montré les lacunes scientifiques du travail de Durkheim. En fait, ce travail repose sur des statistiques déjà discutables, les manipule d'une manière qui ne semble pas très très rigoureuse. Au fond, il a déjà en tête sa conclusion quand il met ses corrélations en schéma, de telle sorte que Dehay peut dire il n'y a pas de théorie sociologique du suicide. C'est sans doute un peu brutal. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose à retirer des études de type purement sociologique, bien qu'elles n'aillent pas jusqu'au plus intéressant. Il semble quand même à peu près évident, même avant consultation des statistiques, que le suicide implique la désagrégation du lien social. Celui qui se suicide se coupe de ceux qui vivent avec lui, se désolidarise du monde, et en général, s'il le fait, c'est parce qu'il se sent déjà un étranger parmi les siens. C'est parce que le lien qui jusqu'alors le retenait au monde lui apparaît maintenant si ténu, de si peu d'importance, donc il pense aussi simple de le trancher. Paul Valéry a dit « Le suicide, c'est l'absence des autres ». Ça paraît finalement une évidence. Le suicide, c'est l'absence des autres, malgré les références aux autres, dont je vais reparler, dans la haine, l'agressivité, ou peut-être l'invocation que certains suicides démontrent. Incontestablement, le fait même de se suicider, acte solitaire, est un dégagement de la vie sociale. Certains auteurs montrent en particulier l'influence non pas du lien social en général, mais du lien familial et du lien au premier représentant de la société que chacun de nous connaît et auquel il est lié, les parents. Dans un livre que j'ai trouvé particulièrement précieux sur le sujet, le livre d'un psychiatre néerlandais, Joost Merlo, paru aux éditions Marabout, il y a cette affirmation extrêmement forte que ceux qui ont eu un père riche à la fois d'autorité et d'affection ne commettent pas de suicide. C'est sans doute trop entier dans cette formulation et doit certainement s'accommoder de quelques exceptions. Mais il reste qu'elle est impressionnante. D'un homme dont j'ai peut-être apprécié plus que chez tout autre auteur la sensibilité, la finesse et une certaine sérénité intérieure. Ce Joost Merlo, à la fois docteur en médecine et docteur en philosophie, est passé par les camps de concentration. Et c'est donc d'une expérience extrêmement riche qu'il tire sa vision des choses, Son livre n'est pas seulement le livre d'un technicien qu'il est, mais aussi le livre d'un homme qui a souffert, qui a vu souffrir, qui a une sympathie que l'on perçoit. Alors il souligne ce fait qui est très intéressant. Dans un autre livre, j'ai lu cette petite donnée statistique que dans 84% des cas de suicide étudiés par certains chercheurs, il y a mort ou absence d'un parent. Ça, c'est quand même une donnée statistique qui est impressionnante. 84% des cas. Je me rappelle, j'ai parlé une fois à Lyon sur le sujet de ce soir, et un médecin qui se trouvait dans l'auditoire a souligné qu'il avait fait un travail personnellement sur les suicides et que c'était l'absence du père qu'il avait découvert pratiquement comme la cause la plus évidente dans la très grande majorité des cas. Il y a certainement, donc, dans ce regard sur le lien social, quelque chose qui déjà nous oriente vers la compréhension de ce qui peut conduire un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme, au suicide. Mais avec la relation aux parents, au fond, nous commençons déjà à faire un peu de psychologie. Alors la deuxième approche, qui me paraît, après mes lectures, plus fructueuse que la première, c'est l'approche proprement psychologique. Le docteur Désay a essayé de systématiser. Alors, toute schématisation a ses limites, vous le savez bien, mais c'est pourtant la meilleure façon schématisée d'assimiler des données. Et il a cru pouvoir presque tout résumer par la loi des trois portes. Alors je vous la passe, parce qu'elle me paraît une synthèse intéressante. Classant les motivations des suicides qu'il a pu étudier, ce médecin dit qu'au fond, le suicide peut être soit une porte de secours, soit une porte de sortie, soit une porte d'entrée. C'est ainsi, d'une façon que la mémoire retient aisément, qu'il schématise les motivations diverses qu'il a trouvées dans les cas de suicidés ou de suicidants. On pourrait distinguer suicidé et suicidant. Le suicidé, c'est celui qui met fin à ses jours, effectivement. Le suicidant, c'est celui qui a essayé. On dit, en gros, je marque cela entre parenthèses, qu'il y a à peu près 5 fois plus de tentatives que de suicides réussis, c'est-à-dire 5 fois plus de suicidants que de suicidés. En France, il faudrait compter, en gros, 50 000 tentatives et 10 000 suicides aboutissant au décès de celui qui a voulu mettre fin à ses jours. Alors, Désay, donc, après avoir interrogé des suicidants qu'on ramenait, réanimait dans ses services, après avoir fait des enquêtes, etc., dit, dans un bon nombre de cas, le suicide est porte de secours. L'individu se trouve écrasé par un certain nombre de facteurs qui lui rendent la vie strictement invivable. C'est ainsi qu'il le perçoit. Sous des souffrances d'ordre très divers. Souffrances physiques parfois, misère matérielle, ou souffrances psychologiques. En particulier, l'accumulation des petites blessures du moi, le sentiment d'une infériorité qui s'accuse. Ou bien le problème d'une faute, d'une culpabilité réelle ou imaginaire que l'on porte et dont on ne réussit pas à se défaire. Des facteurs de ce genre pèsent à tel point que finalement l'individu étouffe, il n'en peut plus et il cherche désespérément une issue. Et le suicide se présente à lui comme une porte ou une trappe de secours. Au fond, dans ce cas-là, la mort n'est pas désirée tellement pour elle-même. La mort est désirée comme le moyen d'échapper à cette vie invivable qui ne mérite pas son nom. Ça, c'est un premier type de motivation du suicide que l'on retrouve souvent. Le deuxième type, qui correspond à ce que Désay appelle le suicide porte de sortie, se caractérise par la prédominance de l'agressivité. C'est une sorte de haine de la vie, et souvent la vie parce qu'elle est intimement liée à l'existence des autres et du monde, qui semble la motivation principale du suicide. Il y a une sorte de fureur contenue, mais qui sape et qui mine, qui ronge le goût de vivre, une sorte de mécontentement permanent qui finit par aboutir à une sorte de rage. C'est en particulier la motivation que la psychanalyse a surtout reconnue. Freud a pu dire que l'on ne peut pas se suicider sans que l'agressivité dirigée vers autrui, sans que le mécanisme suivant se produise, donc l'agressivité dirigée vers autrui ne pouvant pas s'exprimer dans la direction d'autrui, reviennent comme en boomerang et se portent alors sur la personne propre. Il jugeait qu'aucun suicide finalement n'échappe à un tel mécanisme, le mécanisme du retour de l'agressivité, qui ne pouvant pas s'exprimer contre autrui de manière directe, se venge en quelque sorte sur la personne propre qui devient pour elle-même l'effigie du monde, l'effigie des autres. Je crois que cette idée du mécanisme de boomerang est tout à fait acceptable. Je suis père de famille et j'ai remarqué comment les enfants, quand ils sont petits en particulier, on arrive parfois, en réponse à une réprimande, quand ils sont mécontents de leurs parents, à se punir eux-mêmes, à se taper. Ça arrive à un enfant. Pourquoi ? C'est assez manifeste. Il ne peut pas, pour des raisons à la fois physiques et morales, psychologiques, affectives, etc., projeter son agressivité directement contre ses parents. Bon, ça lui arrive aussi, mais enfin disons, assez souvent il n'y arrive pas, il ne peut pas. Alors, cette agressivité qui est en lui, il faut qu'elle sorte, et elle sort en se reportant sur lui-même. Et il se fait mal, parce qu'il a besoin de faire mal à quelqu'un, au fond. Tant il est mécontent de ce qu'on lui a dit. Ce caractère de boomerang est certainement présent dans un bon nombre de comportements. Et je trouve intéressant d'analyser de cette manière ce que les psychologues appellent les équivalents suicides. Désert à cette expression-là, par exemple. Des équivalents suicides, c'est-à-dire des conduites d'autodestruction partielle qui correspondent au fond à la petite monnaie du suicide. C'est souvent une espèce d'agressivité à l'égard des parents et à l'égard du monde qui s'exprime, par exemple, dans l'imprudence systématique d'un motard dont on dit il le cherche. Effectivement, il le cherche. Pas consciemment, mais inconsciemment. Et c'est vraiment ce qui se passe en lui. Il y a quelque chose de suicidaire dans sa manière de conduire. Ou bien dans la drogue, l'alcoolisme, et encore d'autres formes. Il y a une très grande diversité, finalement, d'équivalents suicides. Une autre preuve, d'ailleurs, c'est assez, je dirais presque amusant, mais non, le mot ne convient guère. Étrange, une autre chose que les statistiques révèlent, c'est que le taux des suicides tombe brutalement en cas de guerre. Et que le taux des suicides est aussi inversement proportionnel, quand on considère la diversité des pays et des villes, au taux de la criminalité. Si dans une ville, il se commet un grand nombre de meurtres, eh bien vous y avez peu de suicides. Et inversement. Ce n'est pas une loi d'airain, mais c'est quelque chose qui se vérifie. Quelle est l'explication qui vient à l'esprit ? Eh bien, celle précisément qui privilégie l'agressivité contre les autres, mais retourner, alors par impossibilité de l'exprimer envers les autres, retourner contre soi. Si on peut, en quelque sorte, se venger sur les autres, alors il n'y aura pas lieu de se suicider. Mais si on ne peut pas, dans une situation donnée, donc moins de crimes, alors suicide plus fréquemment. C'est la deuxième grande motivation, donc porte de sortie, on n'en veut plus de la vie, voyez. La mort est désirée comme la suppression, la destruction de la vie. Et puis la troisième motivation, alors, elle est plus mystérieuse, sans doute. La mort porte d'entrée, dit Désert. La mort est désirée cette fois davantage pour elle-même. Oh, c'est pas encore pour elle-même exactement, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est. Mais il y a une attirance du néant. C'est la mort comme non-être, comme gouffre qui donne le vertige, mais qui fascine. C'est la mort qui semble comme aspirer celui qui va tenter de mettre fin à ses jours. Camus dit, toujours dans le même mythe de Sisyphe, qu'il semble pour lui y avoir une affinité fondamentale entre le suicide et le sentiment du néant. Alors, ça se présente dans l'expérience sous des formes extrêmement diverses. Vous avez ce vertige qui conduit au suicide, dans le cas dramatique, de l'écroulement de tout un monde affectif, très souvent. Beaucoup de suicides qu'on pourrait appeler passionnels, la personne qui est plaquée par son ami, brusquement c'est le vide, il ne semble plus rien y avoir au monde, alors est comme aspiré par ce vide. Il y a aussi une autre forme, qui est la forme du dégoût de vivre, une espèce de lassitude, d'amertume douceâtre. Je crois que les deux vont ensemble dans la bouche. Parce que pourquoi ? Ce sont les suicides typiquement modernes, les suicides qu'on pourrait dire à la suédoise, qui pourraient correspondre à ce type de motivation. Lorsque les besoins primaires sont satisfaits, que l'on n'a plus à lutter désespérément pour gagner son pain, pour survivre, alors on s'interroge sur les raisons de vivre. Quand on a quelque temps pour lever le nez hors du courant des tâches quotidiennes, alors on découvre le vide. On découvre finalement qu'il n'y a rien qui vaille la peine, qu'on endure pour cela tous les inconvénients de la vie quotidienne, alors on se laisse aller. Voilà trois types de motivations qui ont été mises en lumière par Z de façon admirable, je crois, très claire. Cependant, je crois que nous sommes loin du compte devant le foisonnement des formes de suicide et qu'il faut aller peut-être un peu plus loin que la psychologie clinique, tout en restant encore dans le domaine d'une certaine psychologie, devant un certain nombre de suicides que l'on est obligé d'interpréter. Il semble que dans nombre de suicides, y compris ceux qui sont aussi affectés par les motivations que j'ai décrites, c'est le sentiment de l'autonomie, l'affirmation de soi, paradoxalement, qui se révèle. Le suicidant pense prouver sa liberté, pense montrer qu'il domine son existence lorsqu'il décide de mettre fin à ses jours. Il a l'impression de se situer face à tout le contingent de la vie dans la situation du dompteur qui est libre de décider lui-même de l'heure et du moment de sa mort. Il y a là quelque chose de très profond. Dostoïevski, qui a beaucoup réfléchi au suicide, campe un Kirillov dans son roman Les Possédés, qui dit que quiconque veut être Dieu doit oser se suicider. Quiconque ose se tuer, celui-là est Dieu. Celui qui veut atteindre à l'indépendance totale, celui qui s'affirme comme entièrement autonome, eh bien, il ne peut pas attendre la mort comme un coup du sort, comme la volonté d'une puissance supérieure à lui, et ainsi, le seul acte qui puisse correspondre à sa revendication de liberté, c'est finalement le suicide. Alors il y a d'autres, et encore il y a une démultiplication des aspects de cette motivation profonde. Il y a par exemple la volonté d'expier cette faute que certains jugent intolérable et alors qu'ils fuient. D'autres parfois pensent qu'ils vont l'expier ainsi, et ainsi qu'ils la maîtrisent enfin. Certains veulent dramatiser une existence trop plate. Et c'est ce que Désert appelle le bovarisme d'un certain nombre de suicides qui ont un côté théâtral. On veut finir en beauté et on veut montrer à tous ses proches, souvent détestés, secrètement méprisés, qu'on était capable de faire ça, qu'on était finalement quelqu'un, les journaux vont en parler, etc. Il y a cet aspect-là aussi, une certaine exaltation de l'individu dans une prétention d'indépendance. Il y a aussi une série de suicides que Pechler a particulièrement souligné. Il appelle les suicides ludiques, les suicides semi-suicidaires seulement en apparence, mais quand même au fond, ce sont des suicides, genre roulette russe. Vous connaissez la roulette russe, on se passe un revolver à barillet avec une balle et on essaye, l'un après l'autre, il y en a un fatalement. Pour qui sera la balle, mais on ne sait pas lequel d'abord. C'est le jeu par lequel on frôle la mort. Il me semble que dans ce cas-là, il y a sans doute un certain dégoût de vivre qui s'exprime, peut-être une agressivité, mais que c'est spécialement cette prétention de liberté qui peut nous servir à comprendre. On frôle le risque. Pourquoi ? Bien parce qu'on a le sentiment, en frôlant le risque, de s'exalter soi-même, de le dominer de quelque manière. Il y a, je crois, dans le goût du risque, beaucoup de cette affirmation de l'individu maître de lui-même. Mais ce n'est pas la seule motivation de ce type-là, de ce type profond que l'on puisse enregistrer. Vous le savez, Freud a jugé dans la dernière partie de sa vie que les phénomènes psychiques qu'il avait à étudier ne s'expliquaient pas sans une pulsion qu'il a appelée Thanatos, du mot grec qui signifie la mort, la pulsion de mort. Une pulsion qui, dans l'inconscient, lutte contre la libido, contre le désir de vie. Certains de ses disciples même ne l'ont pas suivi à propos de cette pulsion muette, si étrange. Et le docteur Deset, par exemple, critique Freud, n'admet pas telle quelle sa théorie. Mais finalement, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, il considère que même l'agressivité qui d'autrui fait retour sur la personne ne suffit pas à expliquer les suicides. Qu'il y a une agressivité plus originelle, une agressivité première dans la constitution de l'individu sur laquelle l'autre se greffe, qui est nécessaire pour expliquer les suicides qui se produisent. Alors il n'emploie pas l'expression de Thanatos ou de pulsion de mort, mais il en emploie une autre qui est assez parlante. Il parle de destrudo. Il forge ce mot destrudo pour correspondre au mot de libido. Il n'y a pas que la libido, il y a aussi la destrudo, puissance nocturne en quelque sorte à l'œuvre dans les profondeurs de la psyché humaine. Il y a d'autres motivations encore qui sont du même ordre. On a pu remarquer dans un bon nombre de suicides qu'il y a comme un espoir fou, une sorte de recherche de la vie au moment même où il y a destruction de la vie. Il n'y a pas seulement le cas de ces suicides très fréquents chez les adolescents en particulier, où le suicide est une façon de crier au secours et d'appeler les proches que l'on juge trop indifférents. Ce n'est même pas de cela que je parle. C'est d'une certaine mystique de la mort comme génératrice de vie. C'est, si vous voulez, l'esprit du romantisme allemand, mais il remonte plus haut que le romantisme allemand, meurt et devient. C'était le mot d'ordre. Il faut se plonger dans les eaux de la mort pour que renaisse quelque chose d'autre, de neuf et de plus beau. Il y a comme un mysticisme de la puissance de la mort. Et ainsi, nous avons comme une sorte de mélange de refus et de recherche de la vie en même temps dans un certain nombre de conduites suicidaires. Alors avec ces dernières motivations, vous le voyez bien, nous sommes à la frontière de la psychologie, car il s'agit de la relation de l'homme avec les réalités ultimes. Et la troisième approche, alors, à laquelle donc, je vous ai invité déjà au début, c'est l'approche qu'on pourrait appeler théologique, l'approche qui considère le suicide à la lumière de la révélation de l'absolu, de la révélation de Dieu. Le plus souvent, on a pris le sujet par son côté moral. Et commençant donc à traiter du suicide en fonction de la théologie chrétienne, on a demandé, est-ce qu'il est permis ou est-ce qu'il est défendu ? Quelle est la qualité morale du suicide ? Tout le monde peut être d'accord que dans certains cas, c'est une fuite devant les responsabilités, c'est une lâcheté. Bon, mais dans d'autres cas, ce ne paraît vraiment pas aussi évident. Alors, est-ce permis, est-ce défendu ? En dehors du champ de la philosophie, de la théologie chrétienne, de la pensée chrétienne, vous avez eu les deux positions à cet égard. Certains philosophes ont jugé que le suicide était, dans tous les cas, une faute morale, qu'il était interdit. Un homme comme Kant a été très décisif à cet égard. Et d'autres, au contraire, en particulier dans l'Antiquité, ont été favorables au suicide du sage. Les épicuriens jugeaient que lorsque la balance qui mesure plaisir et déplaisir penche du côté des déplaisirs, eh bien, le plus sage, c'est de mettre fin à toute l'histoire. Il y a même eu un certain Hégésias dans l'Antiquité, qui était si éloquent dans ce plaidoyer qu'on l'appelait le persuadeur de mourir. Il a, en quelque sorte, été l'origine d'une sorte d'épidémie de suicide. Du côté stoïcien aussi, Sénèque approuvait une mort volontaire en liaison avec cette motivation de la domination de soi que j'ai évoquée tout à l'heure, sans doute. Il y a eu les deux thèses, et en général ceux qui ont prêché contre le suicide de manière totale, uniforme, ont surtout mis en valeur le droit de la collectivité en disant « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez aussi bien aux autres. Vous n'avez pas le droit de faire défection alors qu'on attend de vous le service que chaque homme doit à son prochain. » Vous avez eu cet argument-là. Et puis d'autre part, l'argument de la dignité de l'être humain. Il faut, et c'est ainsi que seulement que l'on peut proscrire le meurtre, n'est-ce pas, l'assassinat, il faut poser une dignité suprême de l'existence de l'individu humain. Or, celui qui attend à ses jours, même pour échapper aux souffrances, au fond considère que cette dignité est moindre que le soulagement qu'il obtiendra. Il ne respecte pas l'humanité en lui-même, la valeur de la personne humaine en lui-même, comme il devrait. Oui. Voilà en gros les deux arguments principaux qui ont été employés dans la polémique philosophique contre le suicide. Alors que dit la Bible ? Que dit la révélation chrétienne à ce propos ? Il est très étrange que nulle part dans l'Écriture sainte, ni dans sa première partie, l'Ancien Testament, ni dans sa seconde, le Nouveau Testament, écrit après la venue de Jésus-Christ, que nulle part il n'y ait soit de permission du suicide, soit de proscription du suicide. Il n'y a aucun texte délimité qui dise clairement il est interdit ou il est permis, dans certains cas, de se suicider. Alors je crois que c'est un fait qui mérite déjà quelques moments de réflexion. Pourquoi en est-il ainsi ? Je vais essayer de montrer que, comme la théologie chrétienne ensuite l'a compris, le suicide n'est pas le bien que Dieu veut pour l'homme. Mais il me semble significatif que ce ne soit pas un commandement, un ordre, un interdit qui le proscrive. Pourquoi ? Parce que je crois le Dieu de la Bible connaît les cœurs et sait quelle est la situation du suicidant, celui qui est assiégé par la destrudo, qui est rongé par une agressivité qu'il ne maîtrise pas en lui-même, celui dont le lien aux autres s'est complètement distendu. Il n'a pas besoin d'une loi de plus qui lui interdise de mettre fin à ses jours, d'un visage d'interdiction. Cela ne fera que l'acculer davantage à son désespoir. Aussi le Dieu de la Bible ne s'y prend pas de cette manière pour lui parler de sa vie et des perspectives d'avenir de sa vie. Ce n'est pas comme Dieu de loi qu'il rencontre l'homme qui est dans cette tentation. Cependant, je crois que un certain nombre de récits, ne sont pas très nombreux, mais ils sont assez significatifs, un certain nombre de récits de suicide dans la Bible nous montrent que, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas cette voie que Dieu veut pour l'homme. Il y a un certain nombre de suicides qui nous sont rapportés dans l'Ancien Testament, et il y en a un en particulier qui est très intéressant. Il n'y en a qu'un seul dans le Nouveau Testament, mais celui qui est intéressant dans l'Ancien me semble comme une préfiguration de celui qui se trouve dans le Nouveau et qui a une importance cardinale. Alors je vais en dire quelques mots. Il y a des suicides, plusieurs suicides d'hommes dont la mort était imminente et qui ont voulu échapper aux derniers outrages. Ce sont des suicides, ceux-là, mais relativement peu significatifs parce que ils n'avaient pas aucune chance d'échapper à la mort. De toute façon, ce sont des hommes qui y aboutissent après s'être opposés à l'Éternel. Et l'éclairage qui est donné de leur vie est un éclairage plutôt désapprobateur. Il y a Abimélec, qui, faisant le siège d'une ville, reçoit un projectile sur la tête d'une femme qu'il a lancée du haut de la muraille, et qui, pour qu'on ne dise pas que c'est une femme qui a eu raison du grand Abimélec, demande à son écuyer qu'il le tue, donc il se suicide. Il y a le général Zimri, conspirateur malheureux, qui échoue dans sa tentative de coup d'État et qui se fait flamber dans le donjon où il s'est réfugié, assiégé par ceux qui ont mieux réussi que lui à prendre le pouvoir. Et puis, il y a le roi Saül. Ça, c'est le personnage le plus célèbre dont la fin soit un suicide. Le roi, ça, c'est l'exemple de suicide que nous décrit le plus en détail, peut-être, l'Ancien Testament, et qui paraît montrer que c'est un homme que Dieu a abandonné parce que cet homme s'est détourné lui-même de Dieu, qui recourt à une telle fin. Et puis alors, il y en a un, c'est celui qui préfigure le suicide de l'Ancien, du Nouveau Testament, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui d'Achitophel, conseiller de David. C'est l'ami de David, l'ami de toujours, qui lui a été fidèle, jusqu'au moment où le fils de David se révolte, réussit presque son coup d'État. Le pauvre David vieilli doit fuir dans la montagne avec une poignée de partisans. Et Achitophel se range du côté d'Absalom, le fils de David. Il trahit son ami de toujours. Et normalement, alors, tout devrait tourner en faveur d'Absalom. David n'a presque plus aucune force, il s'enfuit. Mais l'Éternel a décidé que ce coup d'Absalom serait finalement un échec. Et alors qu'Achitophel donne un conseil très judicieux et qu'il dit à son fils, il faut poursuivre David et puis en finir maintenant. Son fils se laisse influencer par un autre conseiller qui est en fait resté fidèle à David, un autre conseiller. Et le bon conseil d'Achitophel, qui avait très bien mesuré les données de la situation, est repoussé par ce jeune Absalom. Alors Achitophel, il a compris. Ouh, c'est un homme d'une perspicacité sans pareil. Il se rend compte que si Absalom a tourné le dos à ce conseil si judicieux qu'il venait de lui donner, c'est que l'Éternel a décidé de faire échouer la tentative d'Absalom et que par conséquent il n'y a plus d'avenir pour lui, Achitophel. Alors, très calmement, c'est un homme remarquable de maîtrise de lui-même. Il rentre chez lui, il règle toutes les affaires de sa maison. Et puis il s'étrangle. Voilà ce que nous raconte le texte. Alors je trouve un étonnant parallélisme entre cette histoire d'Achitophel et celle de Judas. Judas, l'homme qui s'est suicidé dans le Nouveau Testament. Le seul dans le Nouveau Testament. Mais comme Achitophel était l'intime de David, Judas était l'intime de Jésus-Christ, le fils de David. Et comme lui, au moment décisif, il a trahi. Et comme lui, pour des raisons qui demeurent dans le cas de Judas plus obscures, à un moment saisi de remords, il est allé se pendre. Judas, c'est le suicidé type, et le fait qu'un suicide soit raconté dans le récit qui est au centre de toute la Bible, qui est le récit fondamental pour tout chrétien, nous montre que le sujet du suicide est important et que pour le comprendre dans toute son ampleur, il faut le voir dans cette histoire de la passion de Jésus-Christ, trahi par Judas. Il me semble que saint Augustin, lorsqu'il a, sur la base de ces histoires, et aussi en invoquant le commandement « tu ne tueras point », c'est-à-dire « tu ne commettras pas de meurtre » plus précisément, n'a pas donc outrepassé les limites de l'enseignement biblique en disant que le suicide n'est pas une conduite permise à celui qui se met à l'école de la Bible. Mais comment le montrer encore mieux que par la simple référence à ce commandement « tu ne tueras point » Il me semble qu'on peut dire que c'est par les motivations principales du suicide que le suicide apparaît incompatible avec le Dieu qui nous est révélé, le Dieu de Jésus-Christ. Quel est ce Dieu? Eh bien, c'est le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Le Dieu qui dit « toutes les âmes sont à moi ». Le Dieu qui affirme un droit de créateur et de souverain sur tout homme. C'est là le Dieu que l'Écriture nous révèle. Un Dieu qui n'est pas un Dieu horizon, idéal, profondeur plus ou moins ouatée. Un Dieu qui est un Seigneur. Alors il me semble évident que le suicidant, dans la mesure où il prétend disposer de sa vie jusque dans la mort, se heurte à l'exigence de ce Dieu et à sa volonté d'être le Dieu de toutes les âmes qu'il a créées. Il y a dans cette prétention à l'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure quelque chose qui est rigoureusement incompatible avec cette présentation en majesté surplombante et enveloppante du Dieu de la Bible. Ça, c'est le premier aspect. Mais c'est peut-être pas l'aspect le plus fondamental de l'antagonisme entre la conduite suicidaire et puis le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible porte un nom admirable, il ne revient pas très très souvent, mais il est éloquent. On le trouve à la fin de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui vient. Le Dieu qui ouvre un avenir pour ceux auxquels il s'adresse. Le Dieu qui met son plaisir à les justifier. Le langage courant le dit bien à propos du suicide. Le suicidé, c'est un désespéré. Oh oui, le désespoir a toujours quelque chose de complexe, refus et recherche à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a parfois une espèce d'espoir dans le désespoir, mais foncièrement. La sagesse du langage courant, je crois, mérite d'être retenue. Foncièrement, le suicidé, c'est celui qui n'espère plus de cette vie. Or, le Dieu de la Bible s'oppose à lui en tant qu'il est le Dieu de l'espérance. Le Dieu qui veut que les hommes regardent à lui et à l'avenir qu'il ouvre devant eux. Parce qu'il est le Dieu qui met son plaisir à justifier les hommes, il refuse que les hommes se sentent de trop. Parce qu'il est le créateur des hommes et qu'il les aime, il refuse qu'ils prétendent couper les liens qui les unissent à cette terre. Parce qu'il est le Dieu qui aime les hommes et qui met son plaisir à leur pardonner. Parce qu'il est, en Jésus-Christ, venu se charger lui-même de leurs fautes, il refuse qu'ils essaient d'expier par eux-mêmes leur culpabilité. Parce qu'il est le Dieu qui a un plan dans l'histoire et une place pour chacun dans ce plan, il refuse que les hommes jugent que finalement leur présence sur terre est inutile et qu'ils peuvent démissionner. C'est en tant qu'il est le Dieu de l'espérance que le Dieu de la Bible bloque la possibilité de suicide à tous ceux qui pour tous ceux qui le connaissent. Et il me semble que nous nous rendons compte de cela quand nous étudions le personnage de Judas. Quel est le secret du comportement de ce Judas qui a vécu avec Jésus-Christ dans son intimité pendant 3 ans avant de le trahir? Comment est-il arrivé jusque-là? Il y a eu des romans qui ont été bâtis. Certains ont cru qu'il avait voulu forcer la main de Jésus, l'obliger à user de sa toute-puissance, etc. Un pur roman. D'autres qu'il avait cru devoir se plier à une prédestination de trahison. Mais ce n'est pas du tout comme ça que son comportement nous est décrit. La Bible donne un renseignement, à savoir que, trésorier de la petite troupe, il puisait dans la caisse. En fait, c'était laissé glisser à la malhonnêteté. Mais je crois quand même que quand on considère tout le contexte historique, c'est un renseignement bien sûr exact, mais qui ne suffit pas à expliquer que Judas en soit arrivé là où il en est arrivé. Il me semble que un théologien moderne, Barthes, a bien vu ce qui s'est passé en disant que Judas est l'homme qui, devant Jésus-Christ, s'est réservé. Les autres disciples, en particulier Pierre, l'apôtre Pierre, ont foncé derrière Jésus. Oh, maladroitement, ils en sont comiques par moments. C'est comme de jeunes chiots qui courent après le maître. Les autres disciples ont foncé. Mais Judas est l'homme qui s'est réservé, qui a voulu être lui-même. C'était sans doute une des plus fortes personnalités du groupe. Probablement un des hommes de valeur humaine supérieure dans le petit groupe de ceux que Jésus avait choisi autour de lui. Sans cela, on ne lui aurait pas donné la trésorerie de l'affaire. Un homme fort qui s'y connaissait, stable, sûr. Alors, quand il a vu les autres partir comme ça à la suite de Jésus-Christ, dans tout ce qu'il faisait, Judas a dû secrètement les mépriser. Il s'est lui réservé. Oui, il avait été d'accord de suivre Jésus, il était d'accord, il avait approuvé en son temps les thèses de Jésus. Mais il se réservait quand même le droit de faire son petit commentaire et d'apprécier la manière dont Jésus s'y prenait. Et je pense qu'au fil des mois, se réservant devant Jésus, il a dû de plus en plus s'agacer, s'irriter au fond de lui-même de la manière dont Jésus s'y prenait. Ah, ce Jésus, s'il avait su, avec tous les dons qu'il avait, avec ses possibilités de faire des miracles, mais il aurait pu obtenir des résultats tellement plus sensationnels. Vraiment, il ne savait pas s'y prendre. Judas avait son plan à lui, son idée à lui. La pratique de Jésus ne coïncidait plus avec son schéma. Et je pense que même l'indélicatesse financière est à interpréter à partir de là. Bon, je me dis que Judas, homme d'affaires avisé, on lui avait remis la caisse, a dû se dire, mais enfin, ce Jésus ne sait pas s'y prendre. Cet argent que certains lui donnent pour faire vivre la troupe, voilà, il le dépense, il va le donner à un tel ou à un tel. Moi, je sais faire fructifier l'argent. Moi, je sais ce qu'il faut faire d'un petit capital. Et ça a dû commencer comme ça. Ça a dû commencer comme un bon placement qu'un connaisseur, qu'une personne compétente comme Judas était capable de faire, mais bien sûr à l'insu de Jésus, qui n'y aurait rien compris. Oui. Judas est l'homme qui a voulu désespérément rester lui-même en face de Jésus, au lieu d'être le disciple de Jésus, au lieu de partir à sa suite. Et il a préservé son autonomie en face de Jésus. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'au moment où l'horreur de son acte lui est quand même revenue, il y avait dû y avoir un certain combat intérieur en lui. Au moment où il a été saisi donc de dégoût devant ce qu'il avait fait et qu'il a jeté cet argent que les autorités juives lui avaient donné pour prix de sa trahison, qu'il a jeté ça dans le temple avant d'aller se pendre, il ne s'est pas vraiment repenti. Il a été saisi de remords, mais il ne s'est pas repenti. Le repentir, c'est presque le contraire du remords. Le remords est désespoir, alors que le repentir est espérance. Il n'a rien attendu de l'avenir. Il n'a pas regardé vers ce Jésus et vers ce que ce Jésus faisait et qu'il lui aurait ouvert un autre avenir. Non. Il s'est laissé glisser dans le désespoir. Il a voulu désespérément ne plus être lui-même. Après s'être réservé si longtemps, il s'est détruit. Il a dressé sa potence en quelque sorte en face de celle de Jésus. Dans ce récit de la Passion, c'est pourquoi je le trouve si significatif sur le sujet qui nous occupe, nous avons au fond les deux possibilités de la mort volontaire. Les deux morts volontaires antithétiques. Nous avons la potence de Judas, le suicidé, et nous avons la croix de Jésus-Christ qui s'est sacrifiée. Certains auteurs, mais je crois que vraiment c'est la plus profonde incompréhension, ont confondu le sacrifice avec le suicide, sous prétexte qu'il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de mort volontaire. Mais d'autres ont bien vu que ce sont les contraires mêmes que certaines apparences peuvent rapprocher. Gabriel Marcel, le philosophe Gabriel Marcel, dit qu'il y a un abîme qualitatif entre les deux, que le suicide, c'est le comble de l'indisponibilité, alors que le sacrifice, c'est le comble de la disponibilité. Celui qui se sacrifie donne sa vie. Celui qui se suicide se l'ôte. Il la prend. Marcel rappelle d'ailleurs qu'en anglais, on dit to take one's life. Juste le contraire de la donner. Celui qui se sacrifie n'a aucun désir de quitter la vie. Celui qui se sacrifie ne dit pas non à la vie. Il dit oui à la volonté dont le prix est supérieur même à sa vie. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémané, en acceptant la nécessité de sa mort, nous montre bien ce qu'il en est. Jésus n'est pas allé à la mort parce qu'il souhaitait la mort. Au contraire, il nous a dit qu'il y a eu même sueur de sang dans le combat spirituel qu'il a soutenu à ce moment-là. Et qu'il priait son Père en disant, s'il est possible que cette coupe, que cette destinée s'éloigne de moi, Père. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus-Christ n'a pas dit oui à la mort, pas du tout. Il a dit oui à la volonté du Père, nécessaire pour la victoire sur la mort. C'est afin de pouvoir dire, dans sa passion, le nom efficace à la mort, et l'efficacité a été démontrée par sa résurrection, c'est afin de pouvoir dire non à la mort qu'il a accepté la volonté du Père pour lui. C'est tout le contraire de ce que nous avons dans le suicide et dont Judas nous donne l'image. Jésus-Christ a été celui qui a fait aboutir sa mission. Il a entièrement été le Fils du Père jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi, de son sacrifice, la vie a jailli dans la résurrection. Mais Judas est appelé le fils de perdition, ce qui est une façon hébraïque de dire qu'il est le type de l'homme qui se perd. C'est ainsi qu'il est appelé dans le 17e chapitre de l'évangile de Jean, le fils de perdition, c'est-à-dire le perdu type. Et alors là, il me semble que notre sujet se renverse. Car qui est ce perdu dont Judas est le type dans la Bible ? Et c'est au fond l'homme en général, l'homme dans la mesure où il n'est pas réconcilié avec Dieu. C'est lui qui est le perdu. Et du coup, alors, après avoir interrogé pour savoir si le suicide est un péché, il me semble que nous percevons que le sujet se renverse et que c'est le péché, l'éloignement de Dieu, qui nous se révèle suicide. À mes yeux, c'est là que l'enseignement de la Bible nous apporte la lumière décisive. Le problème n'est pas tant de savoir si le suicide est un péché, oui. Mais ce qu'est le péché en tant que volonté de vivre sans Dieu? Il est suicide. Et en fait, plusieurs textes dans la Bible le disent. C'est un thème qui affleure à plusieurs reprises. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, à la fin de ce chapitre, la sagesse divine s'exprime en disant « Qui me lèse attend à sa vie ». Nous avons, au fond, l'idée de suicide qui est exprimée. Celui qui choisit de combattre la sagesse divine et de se comporter de manière opposée, au fond, il se suicide. Et dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui m'impressionne beaucoup, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 6, il dit que la pensée de la chair, ou la préoccupation, ou la visée, le mot grec est assez difficile à traduire, la visée de la chair, c'est-à-dire de la nature humaine, telle qu'elle est dans sa corruption, dans son hostilité à l'égard de Dieu, la visée, la préoccupation de la chair, c'est la mort. Ce qui veut dire que la tendance à pécher, une autre formule équivalente de ce terme qu'emploie l'apôtre Paul, que la tendance à pécher est dans son fond un vœu de mort. Alors cela peut nous paraître étrange, parce que le péché ne se présente pas comme tel de manière évidente. Le péché miroite d'abord devant nous, comme la promesse de plus de plaisir, d'un surplus de vie. Mais en fait, il est un vœu de mort, secrètement. Effectivement, il mène à la mort, mais il y a plus que cela. Il y a une volonté suicidaire. Il y a comme une rage de salir et de détruire que, en tout cas, je l'analyse en moi-même, dans la tentation, dans la puissance conduisante à la désobéissance à l'égard de Dieu, à la prétention à être moi-même sans lui. Mais je découvre quelque chose qui est vraiment semblable à la pulsion suicidaire, une rage de détruire. Il y a une analogie que l'on peut suivre. Pratiquement tout ce que nous avons dit du suicide, on pourrait presque le retrouver, du péché en général, dans ce que révèle l'Écriture. Qu'est-ce que le péché, sinon cette prétention d'autonomie, cette prétention d'être par soi-même, qui aboutit inéluctablement à une volonté de mourir. Car si je prétends être mon propre petit Dieu, eh bien oui, comme le disait Kirillov, il va bien falloir que je prétende assumer ma mort comme le vœu même que je forme. Et dans mon impuissance réelle à me comporter comme un Dieu qui se donnerait la vie, alors je vais singer la suffisance divine en prétendant que je veux moi-même ma mort. Cette destruto dont parle Désaie, il me semble qu'elle est bien proche de cette puissance tyrannique du péché en nous qui conduit à la mort, qui est comme une force de ténèbres en chacun de nous. Je poserai comme thèse finale que le suicide est au fond le miroir du péché. En fait, il n'y a qu'un homme en toute histoire qui ne se soit pas du tout suicidé. C'est Jésus-Christ. Nous tous, parce que nous avons choisi des chemins de mort loin de notre Dieu, nous nous sommes tournés vers l'autodestruction. Un seul ne l'a pas fait, Jésus-Christ, qui lui s'est sacrifié, qui a dit oui totalement au Dieu de vie et à sa volonté de vie pour sa créature. Alors au fond, le choix, c'est entre Judas et Jésus.